Culture-nature. C'est là un concept révolutionnaire qui ne peut se comprendre que par contraste avec son inverse, nature-culture. Nature-culture, c'était le grand leitmotiv de l'ethnologie du siècle passé. Vous en avez sans doute entendu parler, le fameux dilemme nature-culture qui opposait les bienfaits de la culture aux affres de la nature et ne chantait que les vertus du progrès, avec P majuscule. Justement, parlons un peu du progrès. Nos grands-pères, bien que fascinés par la technologie, ont eu sans doute un sentiment diffus de danger. L'intuition qu'ils se lançaient dans une aventure du style d'Icare, qui voulut trop s'approcher du soleil, mais se brûla les ailes et fit une chute vertigineuse. On peut retrouver ce malaise dans les levées de boucliers qui ont accueilli la plupart des innovations. Le chemin de fer, la télévision, même le stylo à billes, les bouteilles en plastique. Peut-être aussi dans la façon d'idéaliser le progrès, de le présenter comme un incontournable, intrinsèquement lié au destin de l'homme, peut-être une façon d'esquiver la remise en cause qui aurait dû s'imposer. On le retrouve aussi dans le grand stéréotype du bon vieux temps, qui remonte manifestement à une période plus ancienne que l'industrialisation. Ces intuitions sont hélas restées lettres mortes. Le mythe d'Icare s'actualise aujourd'hui à grande échelle et à grande vitesse. L'humanité, éblouie par le progrès depuis quelques siècles, a voulu voler trop haut. Elle s'approche maintenant d'un désastre écologique de grande envergure, aussi grave que celui qui marqua la fin des dinosaures. Elle risque de payer très cher les avancées qui ne l'ont même pas véritablement rendue heureuse. Le dilemme classique nature-culture, c'était l'hymne aux beautés de la culture, avec en contrepoint une lutte sans merci contre les éléments naturels. La culture était l'ami et la nature l'ennemi. Il fallait s'en protéger, exploiter les ressources, inventer toutes sortes de gadgets pour rendre la vie plus sûre et plus agréable. Pousser les rendements au maximum pour nourrir un maximum de population. Personne ne parlait de pollution. Les fumées et les effluents se diluaient dans les masses infinies de l'atmosphère, de la terre et des océans. Il y avait place sur la planète pour une infinité d'individus et pour toutes les inventions possibles. Quel temps merveilleux ! Le soleil dardait innocemment ses rayons dans un ciel bleu profond. Les lacs et les rivières sentaient encore bon. Pullulaient de poissons et de crustacés. On voyait partout des champignons dans les forêts, des chevreuils, des biches, des oiseaux à profusion, des coccinelles, des fleurs dans les champs, des abeilles qui butinaient sans s'empoisonner. On pouvait jouir de tout sans limite, multiplier les monocultures, construire toujours plus grand et toujours plus confortable, rouler chaque année plus vite, faire des bébés à tour de bras, sans souci de démographie ni d'environnement. Et voilà que, soudain, en 1992, quelques scientifiques vétilleux commençaient à nous dire que le temps de l'insouciance arrivait à terme, que la planète ne mesurait tout à coup plus que 12 000 km de diamètre, que la mince couche que nous respirons et que nous habitons souffrait gravement de nos déjections en tout genre. Ils nous parlaient pour la première fois de couches d'ozone, de gaz à effet de serre, de surpopulation, d'érosion des sols, d'espèces en voie de disparition, de réchauffement climatique, de catastrophes écologiques irréversibles. Un discours qualifié par certains d'apocalyptique, sans doute pour mieux se boucher les oreilles. Ces scientifiques étaient 1700, lors de la première convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, il y a 25 ans. Ils sont aujourd'hui 15 000 et tiennent un discours encore plus alarmant. Les choses sont loin de s'être arrangées dans l'intervalle. Les mesures de protection convenues à l'époque ont fait long feu, moyennant l'évolution démographique et l'évolution du niveau moyen de vie. Elles se sont soldées par une aggravation générale des émissions de gaz à effet de serre, par une aggravation de la pollution de l'atmosphère et des océans, par une aggravation de la dégradation des terres et par une destruction record de la biodiversité, qui atteint aujourd'hui quasiment 1000 fois ce qu'il serait en temps normal. Il y a bien eu quelques efforts ponctuels, mais tristement minoritaire et suivi de peu d'effets. Le bilan général est resté largement négatif. Tout récemment, l'Allemagne elle-même, à la tête du mouvement écologique, n'a pas été capable de tenir ses engagements. Les États-Unis, qui sont, eux, à la tête des pays pollueurs, se sont désolidarisés. Et tous les indicateurs laissent craindre que les choses, au plan international, continuent dans la même ligne. Les solutions dites renouvelables ne font souvent que déplacer les problèmes environnementaux, voire les aggraver par effet rebond. Il y a bien peu de chances, tout compte fait, pour que les singes fous qui surpeuplent la planète décident sérieusement d'arrêter le massacre. Alors, que faire? C'est simple. Si les méthodes utilisées jusqu'ici ont échoué, il faut en chercher d'autres. Lorsque la médecine n'arrive pas à guérir un malade, la meilleure solution consiste à rechercher les causes de la maladie. Et pas seulement les causes apparentes, comme la présence d'un microbe, d'un virus ou d'un autre facteur accidentel, mais la cause première, celle que Hippocrate nommait la cause des causes, celle qui est à la base du processus morbide, qui en a mis les mécanismes en œuvre et sans laquelle il ne se serait pas développé. Celle aussi qu'il suffit d'écarter pour que ces mécanismes rentrent dans l'ordre. Il est toujours plus efficace de supprimer les causes que de soigner les symptômes. Aujourd'hui, la planète Terre est malade. Elle est atteinte d'un cancer qui la ronge de plus en plus gravement, et ce cancer se nomme humanité. Tout le monde le sait, tout le monde le répète. Mais pourquoi notre espèce, censée couronner toute l'évolution, dotée d'une intelligence à nul autre pareille, en vient-elle à détruire systématiquement son propre biotope? On peut accuser l'égoïsme, la cupidité, l'indifférence, énumérer tous les défauts possibles de l'être humain, mais cela ne résoudra pas le problème à la base. C'est plutôt une manière de jeter le manche après la cognée. L'homme serait un raté de la création, ses tendances archaïques le pousseraient par nature à faire mille bêtises au point de détruire l'environnement dont il a besoin pour vivre. Ce n'est pas en s'arrêtant sur un sinistre constat de cet ordre que l'on va changer la manière de fonctionner des gens. Les envies d'argent, de facilité, de gadgets, de ripailles, de bagnoles, on n'arrêtera pas le consumérisme en culpabilisant les consommateurs. Il faut chercher les causes de la consommation telle qu'on la connaît aujourd'hui. Mieux, les causes des causes du consumérisme. Se demander pourquoi la société de consommation est devenue, à l'échelle planétaire, un prédateur suicidaire. Pourquoi le psychisme humain tel que nous le connaissons, fonctionne sur ce mode pathologique. Quelles sont les causes psychodynamiques profondes de l'égocentrisme, de l'avidité, de l'indifférence aux valeurs naturelles? Ces défauts appartiennent-ils à la nature humaine ou sont-ils des conséquences de la culture? Et pourquoi le progrès exerce-t-il une fascination sur les esprits au point d'en oublier les conditions de survie des corps? Et là vient un point essentiel du raisonnement. Le fonctionnement de l'esprit dépend des multiples apprentissages que traverse l'enfant. Nos conditionnements, nos tendances, nos attirances, nos répulsions, nos inhibitions dépendent dans une très large mesure de ce que nous avons vécu dans nos jeunes années. Or, ce que nous y avons vécu et enregistré a été largement déterminé par la culture, à travers le discours et l'exemple de nos parents, de nos copains, de nos amis, eux-mêmes conditionnés par toutes sortes de sentences, de règles de conduite et d'habitudes transmises de génération en génération. Influencés aussi par la publicité, par les médias, par les penseurs du système, au point qu'on ne sait plus exactement aujourd'hui ce qu'est la nature humaine. Au bout du compte, nous sommes confrontés à un terrible dilemme. ou bien l'homme est programmé génétiquement, de sorte qu'il en vient automatiquement à piller son environnement, ou bien nous sommes victimes de certaines erreurs de culture qui développent en nous une avidité et un égocentrisme pathologique qui nous poussent à détruire nos sources de vie. C'est précisément là que s'articule le dilemme culture-nature. Juste à l'inverse du dilemme nature-culture, qui diabolisait la nature et encensait la culture, il s'agit cette fois de mettre en cause la culture, en particulier notre culture occidentale, qui est en train de contaminer la planète entière. Il s'agit de la radiographier jusqu'à la moelle, d'en reconsidérer les bases et de la transformer de manière qu'elle forme des êtres portés spontanément à respecter la nature plus qu'à faire valoir leurs propres égoïsmes. C'est à ce prix que les forces réunies de milliards d'individus pourront converger vers un véritable renouveau écologique. D'où toute une série de questions corollaires. Quelles sont les erreurs de culture qui déterminent le fonctionnement psychique actuel, que nous croyons normal, mais qui pourrait bien s'avérer pathologique? Quel serait le fonctionnement naturel de l'être humain s'il n'était pas altéré par une culture inappropriée? Et comment définir une culture qui garantisse un fonctionnement psychique tel que nous soyons portés par nature à respecter la nature? Toutes les mesures prises de l'extérieur sous forme de recommandations, d'interdictions, de sanctions n'auront guère d'écho à long terme si le fonctionnement psychique des milliards d'individus que nous sommes reste ce qu'il est. Les forces en présence sont gigantesques. Toute l'économie, toute la tradition, toutes les habitudes, tous les conditionnements universels. Par surcroît, tout effort écologique bute sur le grand stéréotype « je m'y mettrai quand les autres auront commencé ». En revanche, si l'on parvient à comprendre et à faire comprendre d'où provient ce fonctionnement psychique qui finit par détruire la planète, quelles sont les causes premières de l'égoïsme, de l'avidité, du consumérisme et de tout ce qui s'ensuit, là, une prise de conscience générale pourrait changer la donne. Utopique? Peut-être. Mais face au danger, il faut chercher tous azimuts, même du côté de l'utopie, car rien ne dit que nous ne trouverons pas là les clés qui nous manquent. La notion d'utopie agit comme un tabou. Elle nous interdit de nous poser certaines questions. Elle recouvre donc un champ d'exploration systématiquement occulté, où l'on a finalement plus de chances de trouver des solutions que dans les sentiers battus. Il en va d'ailleurs de même pour d'autres tabous, comme les tabous sexuels, qui nous empêche de remettre en cause la morale, alors même que celle-ci conditionne les structures psychiques et donc la plupart des comportements. De même pour les tabous qui entourent l'art culinaire et nous empêchent de mettre en cause l'alimentation traditionnelle, alors que celle-ci conditionne directement les orientations de l'agriculture, premier facteur du désastre écologique. Ces questions, pourtant fondamentales quant à l'avenir de l'humanité, à commencer par l'avenir de nos enfants, n'ont pas été explorés sérieusement jusqu'à ce jour, ni par les tenants de l'industrie, ni par les tenants de l'écologie, ni même par les tenants de la psychologie, de la psychanalyse, du cognitivisme, car rien n'est plus difficile que de se remettre en cause soi-même. Elles constituent néanmoins les actes principaux autour desquels peut s'articuler une solution concrète du problème écologique. Voilà ce que nous propose le dilemme culture-nature. Chercher, dans les erreurs possibles de notre culture, les causes premières qui altèrent nos psychismes et nous amènent à détruire la nature. Cela sur la base d'un pari, pas forcément perdu d'avance, que la nature humaine soit telle que notre espèce ne soit pas prédestinée génétiquement au suicide. Tout doit être repensé à la base, dans tous les domaines, et dans le cadre d'une recherche systématique. Puis, dans un deuxième temps, Il s'agira de faire connaître les résultats obtenus, de chercher comment faire prendre conscience au grand nombre des causes de la situation actuelle et des changements qui s'imposent. Les grands nombres ne sont pas forcément aussi stupides que certains ne voudraient le faire croire. Le nœud est plutôt dans le fait que les valeurs qui sont imposées à l'individu par la culture actuelle sont contraires à ses instincts premiers. Elles n'ont pas de résonance avec les intuitions profondes des individus. L'apparente bêtise des masses traduit finalement, dans une large mesure, une résistance instinctive aux mensonges ambiants. Reste à prier pour que cette prise de conscience, qui risque bien de bouleverser le système de valeurs auquel le monde est attaché, comme Prométhée à son rocher, puisse être assez claire et profonde pour renverser la vapeur, avant que les zélateurs de l'Apocalypse ne puissent dire à Saint-Pierre qu'ils ont eu raison.